Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Voilà, si vous avez l'occasion peut-être de consacrer quelques minutes avec nous à la présentation d'un ouvrage sur le Congo. Un ouvrage sur le Congo qui est un ouvrage assez original par rapport à ceux qui ont déjà été édités sur le Congo. C'est un travail de longue haleine fait par deux amoureux, et même une native du Congo, par Chantal Tombeau et par Alain Huard, qui ont passé plusieurs dizaines d'années au Congo, et pas dans le Congo uniquement des grandes villes de Kinshasa ou de Lubumbashi, qui ont aussi été voir dans les campagnes, le long du fleuve, dans les forêts, quelles étaient les possibilités de ce Congo qui est à la fois énorme et à la fois petit par sa population, puisque la densité de population n'est pas énorme, mais qui a des potentialités nombreuses, tant en matière d'agriculture que minérale, avec les forêts, le bois, et aussi des richesses aussi culturelles. Ça, c'est un peu la spécialité de Chantal, qui travaille actuellement au Musée d'Afrique centrale, ici à Tervuren, et qui partage son temps aussi avec le musée de Lubumbashi, où il y a là une relance justement d'intérêt. Elle va nous expliquer ce soir un petit peu les raisons qui ont poussé notamment le musée Tervuren d'Afrique centrale ici à Bruxelles de se relancer vers une expérience, parce que je crois que c'est une expérience, il n'y avait plus grand chose là-bas et il a fallu tout recréer avec une aide technique, technologique même on peut dire, et puis aussi tout le travail que fait Alain Huard, à la fois des photos, parce que c'est un livre où il y a beaucoup de photos. C'est un livre aussi où il y a beaucoup de fonds, où on explique à la fois la biodiversité du Congo, une de ses richesses, mais aussi de certaines menaces qui existent. Rien n'est rose, rien n'est parfait au Congo ni ailleurs. Ces menaces, ce sont certaines puissances économiques, ou même parfois certains pays qui ont des ambitions pour exploiter à leur manière et à leur profit presque uniquement les richesses de ce vaste pays qu'est la République démocratique du Congo. Alors, je propose, s'il y a d'autres personnes, madame, je vous invite à venir prendre place à côté de nous. Il n'y a pas de problème, on est très gentils, vous verrez. Alors, vous pouvez nous rejoindre et j'espère en tout cas que vous pourrez y participer. Alors, on va d'abord peut-être commencer par la petite présentation, on vient de la faire, mais aussi pour parler de ce pays. Il faut savoir que l'ouvrage qui est ici présenté, le Congo pays magnifique, que vous avez ici à plusieurs endroits dans la librairie, eh bien, il faut savoir que cet ouvrage, il existe aussi en version, et c'est une des richesses justement de cet ouvrage, en version pour le Congo, une version, je ne dirais pas simplifiée, mais quand même qui est moins onéreuse, parce qu'on sait que le pouvoir d'achat au Congo est très différent d'une autre, et que donc il fallait donner aussi la possibilité, c'est un des messages aussi des auteurs du livre, de donner aux Congolais de redécouvrir et de redécouvrir leur richesse, à la fois culturelle et aussi leur patrimoine, que ce soit un patrimoine naturel, mais un patrimoine aussi touristique. On pourra en parler aussi peut-être de cet écotourisme qui ne demande qu'à démarrer, mais pas n'importe comment, parce que c'est un pays qui doit tout créer et on ne va pas non plus aller trop vite dans ce redémarrage. Alors pour le livre, on va passer en revue quelques chapitres qui sont ceux que l'on trouve au début du livre. La deuxième partie est plus un tour des provinces du Congo, où on voit un peu les différences entre une grande partie du Congo et bien sûr un pays agricole, un pays agraire, avec des richesses, des forêts, d'exploitation forestière, et aussi bien sûr une grande ville comme Kinshasa ou comme Lubumbashi. Ce sont au fond parfois, vous le verrez, vous l'entendrez, un Congo à un visage très différent, avec des qualités qui ne demandent qu'à être exploitées. Alors, le premier chapitre qu'on voit, et la première question évidemment qui nous vient à l'esprit, et c'est peut-être parce qu'on est belge aussi qu'on y pense, c'est qu'après 30 ans de crise politique, économique, une crise qui a touché aussi le milieu de l'enseignement au Congo, qui a touché aussi le milieu hospitalier, on se demande parfois qu'est-ce qu'il reste comme structure, comme infrastructure, il y a des gens qui sont là, qui font un travail énorme, avec de petits moyens, mais qui arrivent quand même à réussir un développement économique, un développement agraire. C'est tout ça qu'on va évoquer. Alors ma première question, j'adresse à Alain Huard. Après 30 ans de crise, après aussi pratiquement, dans un an, ce sera jour pour jour, les 50 ans d'indépendance du Congo, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui en RDC en juin 2009, Alain Huard? Ça marche tout seul.
Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, c'est encore un pays qui présente un paradoxe énorme dans la mesure où le potentiel de ce pays permettrait de nourrir toute l'Afrique. Certains spécialistes pensent qu'un Congo aménagé comme l'Europe pourrait nourrir 2 milliards de personnes. Donc c'est un pays qui dispose d'un potentiel alimentaire énorme et pourtant 65% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour et se nourrir pour eux est problématique. Donc voilà, c'est un petit peu ce paradoxe-là. C'est un pays qui est enclavé, où les infrastructures de transport qui datent encore de l'époque coloniale se sont abîmées progressivement. Elles sont en train d'être réhabilitées maintenant, mais vu l'immensité du pays, ça va prendre un certain temps. Donc c'est un pays qui a souffert d'une guerre qui a duré quand même longtemps, d'une transition politique qui a duré aussi une quinzaine d'années. Et donc pour finir, pendant tout ce temps-là, on ne s'est pas occupé du vrai développement. Donc on vit difficilement dans les campagnes, dans les villes, mais on vit quand même beaucoup mieux qu'il y a 3-4 ans. Donc,
on fait plus que survivre aujourd'hui au Congo.
Ben, disons qu'il faut reconnaître, même le produit intérieur brut de la RDC, en chiffre absolu, est en croissance de 6 à 7% pour la quatrième année consécutive. Donc, quelque part, la courbe descendante qui a duré 30 ans, eh bien maintenant nous sommes en train de remonter. Mais quand on part de bas, la remontée dure un certain temps, dure longtemps. Donc on peut constater dans les grandes villes comme Kinshasa et Lubumbashi que le pouvoir d'achat, que l'argent qui circule, les chantiers et autres démontrent qu'il y a un certain renouveau de l'économie. Et on voit aussi des chantiers de routes, de voies d'évacuation, les axes Kinshasa-Kikwit, Kinshasa-Bandundu ont été réhabilités, au Katanga des routes sont refaites. Donc on voit que le pays est en chantier, c'est encore insuffisant, ça va prendre du temps, mais donc les choses sont en train d'évoluer. Et de ce fait-là, la présence de ces chantiers, le fait que l'on investisse dans les infrastructures, vont permettre aux gens d'évacuer leur production agricole, de rejoindre les centres urbains. Et donc, il faut rétablir dans ce pays un circuit économique. Il faut relier la campagne avec la ville pour permettre donc aux citadins de créer une valeur sur les produits agricoles et aux gens des milieux ruraux de vivre en vendant leurs produits en ville.
Mais est-ce qu'on ne veut pas dire que tout ça pourrait être menacé par quand même la convoitise de certains États, de certaines sociétés, par ce qu'on appelle parfois les pilleurs de richesses naturelles? Quand on connaît les richesses de minerais, de production agricole, c'est quand même une réalité aussi. Comment est-ce que le Congo va pouvoir se défendre quelque part face à ces ogres?
Mais donc, l'histoire du Congo, si on met entre parenthèses la période la plus florissante qui va de 1930 à 1960, une trentaine d'années pour ainsi dire, où il y a eu des investissements infrastructurels qui ont été faits, l'histoire du Congo est une histoire de pillage. Et donc, pour construire son futur, le Congo devra forcément dépasser ses dangers. Et aujourd'hui, si on ouvre la forêt comme ça se passe en Amazonie, si on désenclave le Congo, eh bien, il y a énormément de probabilités pour que le pays subisse des pillages aussi importants que ce qui existe dans le bassin de l'Amazonie, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je pense qu'il y a, trois niveaux de gouvernance. Ce sont les gouvernants, les chefs élus qui occupent les positions au niveau du gouvernement central, mais aussi des gouvernements provinciaux et des parlements provinciaux, parce que dans ce pays aujourd'hui, il y a 11 gouvernements, des petits gouvernements de 10 spécialistes dans chaque province, il y en a un dans chaque province. D'autre part, c'est l'administration, qui est le lien entre le pouvoir politique et la population. Et enfin, c'est la société civile. Donc, il faut miser sur cette société civile, et pour lui donner l'occasion de défendre ses richesses, son patrimoine, il faut l'éduquer. Et donc, quelque part, il faut investir massivement dans l'éducation. Il faut faire un plan, je dirais, de tous les cycles scolaires, primaires, secondaires, universités et autres, écoles techniques et professionnelles, pour que une éducation systématique au patrimoine du Congo, et ces patrimoines sont autant naturels que culturels, à ses potentialités, il faut qu'on arrive à donc revoir complètement le système éducatif et introduire dedans les contenus qui sont spécifiques à la préservation des patrimoines et au développement futur du Congo.
Alors, on va y revenir dans quelques minutes. J'aurais peut-être demandé à Chantal Tombou de voir un peu avec elle quelles sont, au fond, il y a des racines culturelles qui sont importantes, il y a des coutumes au Congo qui ont vécu pendant des siècles et qui aujourd'hui peuvent encore donner des racines aux habitants de cette République démocratique du Congo. Comment est-ce que les racines de cette culture indigène peut-elle aider aujourd'hui au développement du Congo ?
Ce sont des racines qui sont déjà gardées par les praticiens, pardon, donc par des Nganga qui connaissent les secrets et qui vont appliquer différentes formules, des rituels, des utilisations aussi de plantes, de médecine douce pour guérir. Et en même temps qu'ils utilisent leur savoir pour, à des fins thérapeutiques, ils vont aussi donner des clés pour la société pour se retrouver en équilibre en parlant des divinités, des esprits de la nature qui se trouvent dans la forêt, qui se trouvent dans la savane.
Dans le livre, vous donnez quelques exemples concrets. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler un, par exemple ?
Oui, par exemple, au Kasaï, il y a ce qu'on appelle les Itumba, qui sont des petits oracles en bois, dans un bois qui est résineux, qui va être adhésif. Et en frottant, le Nganga va poser des questions à son patient. Et à un moment donné, il y aura des vibrations qui vont se faire. Il va aussi y avoir des indications sur le visage de la personne. Et l'objet va en quelque sorte renifler la vérité, identifier un problème et donner la clé à un problème de société ou à un problème qui peut être lié à un environnement.
Alors ça, c'est un des reflets de ces valeurs traditionnelles, mais aussi des valeurs artistiques, quand même, on l'oublie parfois au Congo.
Oui, donc la RDC, c'est 246 langues, c'est autant de systèmes de pensée, c'est autant de formes complexes au niveau de l'art, que ce soit un art qui s'inspire des cubistes, qui va faire référence à Picasso, par exemple, dans les masques songhés, ça peut être un art beaucoup plus classique, comme l'art Luba ou l'art Chokwe, donc une diversité formelle. Et une diversité formelle qui a permis d'avoir les plus belles collections en Europe. Donc des chefs-d'œuvre qui sont reconnus comme étant un patrimoine mondial. À côté de cela, il y a un art qui est toujours en mouvement, qui est celui des artistes contemporains, qui eux vont s'ancrer dans la tradition, mais qui vont la dépasser pour réaliser des œuvres beaucoup plus ancrées dans les problématiques actuelles. Puisqu'ils vont en Europe, ils voyagent, ils vont au Biennale de Dakar et ils reviennent avec différentes nouveautés qu'ils intègrent et qu'ils font connaître.
Ce qui est frappant peut-être quand on parcourt le livre, pour ceux qui ont l'occasion de le lire ou qui ont déjà eu l'occasion de le parcourir, c'est qu'on voit très bien que cette diversité culturelle, elle est là, mais qu'il y a aussi en plus une autre dimension qui est la liaison entre la culture et la nature. Tout ça s'interpénètre en réalité dans la vie quotidienne même encore des Congolais d'aujourd'hui.
La liaison entre la nature et la culture, oui. Rien qu'en regardant ce que les gens mangent, par exemple le manioc, s'interroger sur l'histoire du manioc et voir comment elle a été introduite, quels sont les rituels qui tournent autour de cette plante. Au niveau du bananier également, là on a une biodiversité qui est présente, on a un patrimoine qui est là et qu'il faut valoriser en montrant justement les richesses culturelles, les proverbes, les moyens de culture qui sont appliqués à cette plante.
Est-ce que pour vous quand même, là comme ailleurs au Congo, est-ce que la mondialisation n'est quand même pas une menace? Ou bien au contraire, ils sont préservés parce qu'au fond, leur développement et l'étendue du pays les protège quelque part, la forêt.
Je pense que c'est une menace pour toutes les populations urbaines, parce que l'on va vers un nivellement de l'éducation, vers un nivellement de la culture, et qu'à partir du moment où on a des chaînes de télévision qui ne vont diffuser que des productions assez violentes avec peu de contenu, on oblige les enfants à rester des pauvres de la culture. Tandis que si on peut valoriser ces savoir-faire, eh bien on va rendre de la fierté, de la dignité, et à partir de ce moment-là, on va aussi créer des adultes responsables.
Je reviens vers Alain maintenant. Alain Huard, ces changements de mentalité, c'est aussi changer la mentalité des dirigeants. Est-ce que les dirigeants, ils remontent suffisamment leurs manches? On a parfois l'impression que beaucoup d'entre eux ont eu une éducation, que ce soit en Europe ou même parfois aux États-Unis, et qu'au fond, le gouvernement congolais d'aujourd'hui, il connaît pas très bien, ou ne connaît plus très bien son pays, il est un peu coupé des réalités. Est-ce qu'ils remontent vraiment leurs manches pour prendre vraiment ça en main, comme on dit dans le sens premier du terme?
Oui, bon, c'est une question délicate. Je vais dire aujourd'hui, il y a les dirigeants politiques au niveau du gouvernement central, il y a également les dirigeants politiques élus au niveau des provinces. Au niveau des provinces, l'obligation de résultat est encore beaucoup plus forte, dans la mesure où, à la prochaine élection, ils seront élus ou non élus selon les résultats qu'ils auront pu avoir dans la province.
Là, le contrôle démocratique joue à plein.
Voilà, donc il y a le contrôle démocratique. En plus, dans les provinces, c'est nouveau. Il n'y a jamais eu de ministres provinciaux, il n'y a jamais eu de parlement provincial. C'est un nouvel exercice du pouvoir qui nécessite une forme d'apprentissage. Donc, quelque part, je pense que c'est important que les autorités politiques voyagent, circulent, apprennent à connaître les problèmes, discutent avec la population. Parce qu'un gouvernant seul, ça ne permet pas de développer un pays. Il faut un gouvernant qui travaille avec la société civile, qui travaille avec les organisations paysannes, qui travaille avec les structures de base de la société civile, et que ça se façonne ensemble. Et dans le même temps, cette population, elle augmente ses exigences au contact du politique, et elle augmente le cahier des charges qu'elle va proposer aux futures élections pour choisir ses dirigeants politiques. Donc je pense que la culture démocratique du Congo est encore à ses débuts et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais que quelque part on est sur le chemin qu'il faut et qu'il y a des espoirs dans cette décentralisation et dans cette nouvelle constitution qui, après, je vais dire, des dizaines d'années de planification centralisée totalement inefficace, passe maintenant à un niveau décentralisé où chaque province est responsable de son développement. Quand on pense qu'une province de la RD Congo a la taille d'un pays comme la France, eh bien on comprend que c'est quand même plus simple d'administrer une province de cette taille que d'administrer un sous-continent tel que le Congo, qui est totalement immense, et on ne peut pas planifier aujourd'hui à un niveau central sur un territoire aussi vaste.
Alors dans le livre, et vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, il y a le rôle important de l'éducation, de l'enseignement, et là, pratiquement, on doit repartir de zéro, que ce soit au niveau de l'école primaire. Il faut savoir qu'au Congo, il y a un tiers des enfants ne fréquentent pas l'école primaire, pour un tas de raisons, qui vont pour des raisons familiales, de survie, peut-être une petite exploitation, et aussi parce que parfois il n'y a pas d'école, les enseignants ne sont plus payés. Donc ça, c'est une des priorités aussi au niveau des provinces. C'est là le véritable niveau de décision.
Oui, tout à fait. Donc les matières qui sont décentralisées au niveau des provinces, notamment, c'est l'agriculture, la santé, l'éducation. Donc quelque part, la base de la vie quotidienne des gens, elle est décentralisée. C'est aux gouvernants provinciaux de trouver les moyens, parce que l'État est en faillite financière, on peut le dire, au Congo, de trouver les moyens de telle sorte à réorganiser cela au niveau des provinces. L'éducation, pendant les 30-40 dernières années, a représenté 3% du budget de l'État. Donc vous comprenez que avec 3% dans un État qui n'a déjà pas des grandes recettes, on ne peut pas imaginer qu'on va rebâtir cette éducation. Il faut que l'éducation devienne une priorité, qu'elle devienne une priorité au niveau du gouvernement, au niveau des autorités provinciales, au niveau de la société civile, au niveau des bailleurs de fonds. Il faut que tout le monde se dise maintenant, nous mettons le paquet sur l'éducation. Comment voulez-vous construire un pays, une nation, où 65-70% des jeunes ne vont pas à l'école secondaire? C'est quand même difficile. Même une école agricole ou une école professionnelle, ils n'ont pas accès.
Or, ils ont besoin justement de tout ce savoir pour lancer ou relancer et gérer une agriculture locale, petite, mais quand même c'est important.
Oui, mais c'est valable pour l'éducation, c'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour l'écotourisme parce qu'il y a un très grand potentiel touristique, c'est valable pour quantité de métiers, l'artisanat, les arts et autres. Donc quelque part, on a besoin, pour développer une population, un peuple, on a besoin d'un minimum d'encadrement. Et donc la plus grande urgence dans ce pays, c'est de reconstruire tout le système éducatif et de revoir les contenus. C'est-à-dire que quelque part, les contenus éducatifs datent de plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, eh bien, à la lumière des enjeux de la planète, pourquoi est-ce que les Congolais qui vivent dans un des poumons majeurs de la planète ne seraient pas au courant des enjeux, alors que nos petits Belges et autres sont au courant du bassin de l'Amazonie, de la forêt du Congo, etc. Donc quelque part, il faut mettre des contenus liés aux sciences d'éveil, liés au patrimoine, et vraiment rentrer dans l'éducation des enfants par des jeux, par toutes sortes d'outils, de manière à ce qu'ils prennent conscience de ces enjeux. Et donc il faut reconstruire l'éducation, et c'est un travail qui va prendre, il ne faut pas avoir peur de dire que ce travail va prendre 10 à 20 ans. Mais il ne faut pas faire l'impasse dessus, parce que tant qu'on n'aura pas une population éduquée, comme vous avez dit tout à l'heure, les pilleurs auront encore des beaux jours devant eux.
Alors, Chantal, à côté de l'agriculture, de l'éducation, il y a aussi la santé. Alors la santé, c'est un des domaines aussi prioritaires au niveau provincial, au niveau des villages. Comment est-ce qu'on répond à cette demande-là au Congo?
Mais par les tradipraticiens, justement, donc il y a deux types de médecine. Il y a la médecine qui est qui est la médecine classique, où là on va utiliser des antibiotiques, etc. Mais c'est beaucoup plus coûteux. Et puis il y a tout ce savoir-faire que les tradis praticiens possèdent. Et là, c'est dans le dosage des plantes, dans l'identification des plantes.
Quand vous dites tradis praticiens, c'est quoi? C'est les sorciers, comme on disait dans le temps?
En fait, le mot sorcier, on l'utilise peu parce que cela a souvent une connotation péjorative. Donc on va plutôt utiliser le terme de Nganga, qui est un médecin ritualiste qui connaît les plantes, et cela se traduit par tradi praticien, un praticien qui va utiliser les choses traditionnelles. Et alors il y a plusieurs cercles de tradipraticiens. Il y a des tradipraticiens qui sont initiés avec chaque fois la connexion avec un esprit, et suivant la connexion avec cet esprit, qu'il soit de la nature ou qu'il soit issu des ancêtres, il y a des modes de divination et il y a des modes de guérison qui sont liés à ce savoir. Alors pour répondre plus précisément à votre question, c'est que pour soigner la malaria, par exemple, lorsque l'on n'a pas les produits comme la quinine, eh bien, on va utiliser des massages, d'autres plantes. Et
c'est efficace.
Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que c'est efficace pour des malarias qui ne sont pas encore trop graves, mais qu'à certains moments, il faut vraiment avoir recours à une médecine.
Il y a aussi quand même un réseau de dispensaires, quand même, qui vient en deuxième ligne, si je puis dire.
Oui, bien sûr. Mais cela reste très coûteux, et pour la majorité des personnes, elles ne peuvent pas avoir accès à ces dispensaires.
Il y a quand même des médecins dans les campagnes congolaises. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes.
Il y a très peu de médecins dans les campagnes congolaises. Il y a vraiment très peu.
Chantal, peut-être ajouter quelque chose qui sera un peu la conclusion provisoire, puisque la conclusion, elle se trouve là. Il y aura certainement une suite de ce livre. Donc, on est loin d'une conclusion finale, mais la vôtre ce soir.
Mais vous parliez de solidarité, et là je rejoins Alain dans cette région de Beni et de Butembo, puisque c'est là que l'on va trouver des sociétés qui ont protégé leurs cimetières, donc des cimetières sacrés. On va retrouver des hôtels rituels, on va retrouver des forges qui fonctionnent toujours avec toute une série de lieux sacrés, et on va retrouver aussi un art de la poterie. Alors, tout ça montre que l'on a vraiment ancré le développement d'une société autour de ses racines, autour de ses valeurs culturelles.
Eh bien voilà, c'est une belle conclusion. Provisoire, comme j'ai dit, je ne peux que vous encourager à parcourir et pourquoi pas acquérir cet ouvrage qui a un grand mérite, je crois, c'est de donner une nouvelle manière de voir le Congo avec des photos qui, hein, je tiens à le souligner, ont d'une grande qualité. Il y a un livre qui est bien imprimé aussi, parce qu'on peut parfois avoir des belles photos, et quand c'est mal imprimé, on est un peu triste quand on voit le résultat. C'est pas le cas. Et puis, pourquoi pas, c'est d'aller voir sur place, au Congo, hein, d'aller voir si tout ça correspond bien à une réalité, et comment est-ce qu'on peut aider le Congo aujourd'hui. C'est peut-être en allant voir sur place aussi, peut-être pas de la manière du Club Med, mais peut-être d'une autre manière. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.